Au micro, Idrissa Seydoudia, bonjour. En Guinée, à 6 jours de la présidentielle, l'opposition a chiffré lundi à 90 au moins le nombre de personnes tuées en un an au cours de la répression du mouvement contre un troisième mandat du président sortant Alpha Condé, chiffre dénué de fondement selon le gouvernement. Les violences ont suscité la crainte de tensions autour de la présidentielle du 18 octobre. Au Nigeria, malgré la dissolution annoncée avec effet immédiat de la SARS, une unité de police spécialisée dans la lutte contre la criminalité, des milliers de personnes continuaient à manifester lundi dans plusieurs grandes villes du pays. Après une semaine de mobilisation contre les violences policières, où 2 nouveaux manifestants ont trouvé la mort. Cette unité est accusée de racket, d'arrestation illégale, de torture et même de meurtre. En Afrique du Sud, meurtre d'un fermier blanc, 2 suspects noirs arrêtés, des manifestations virulentes. Le président Cyril Ramaphosa a appelé lundi au calme, soulignant que les tensions raciales liées à ces incidents rappellent tristement que l'Afrique du Sud reste en convalescence de l'apartheid. Cyril Ramaphosa a laissé passer le week-end pour s'exprimer après une semaine de tensions croissantes, jurant qu'il ne laisserait personne rallumer le brasier de la haine raciale. De nouveaux corps de migrants ont été repêchés en Méditerranée lundi après le naufrage dimanche d'une embarcation au large de la Tunisie, portant le bilan des victimes à 13 morts et 9 disparus, a indiqué le tribunal de Sfax. Le bateau transportait 29 personnes, dont 2 Tunisiens et des personnes originaires de divers pays d'Afrique subsaharienne, selon les propos des survivants. Parmi les corps retrouvés, 7 femmes de 20 à 30 ans et 3 enfants, dont 1 de moins de 6 mois. Le groupe pharmaceutique Johnson & Johnson a annoncé lundi la suspension de son essai clinique d'un vaccin contre le COVID-19, l'un des participants étant tombé malade. Par ailleurs, le docteur Sean Conley, médecin du président américain Donald Trump, a annoncé lundi que M. Trump avait été testé négatif au COVID-19 plusieurs jours de suite en utilisant un test rapide. M. Trump a retrouvé les estrades de campagne en Floride, assurant être en pleine forme à 22 jours de l'élection qu'il opposera au démocrate Joe Biden. D'autre part, un Américain a attrapé 2 fois le COVID-19 à 1 mois et demi d'intervalle, et la deuxième infection était plus sévère que la première, selon une étude parue mardi dans la revue médicale de Lancet Infectious Diseases, qui détaille ce cas de réinfection, l'un des 5 recensés jusque-là dans le monde. La France est dans une deuxième vague forte de l'épidémie et il ne peut plus y avoir de relâchement, a déclaré le Premier ministre français, sans exclure, si nécessaire, des reconfinements localisés. Un reconfinement général dont les conséquences sont absolument dramatiques doit être par tous les moyens évité, a-t-il précisé. Au Royaume-Uni, pour écraser partout où il apparaît le coronavirus qui revient en force et menace de déborder les services de santé, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé lundi fermer les pubs à Liverpool et réactiver 3 hôpitaux de campagne mis en place au printemps. Tandis que les pays européens prennent des mesures drastiques face à une nouvelle flambée des cas de contamination, la Chine, où la maladie a fait son apparition fin décembre, a mené lundi une campagne massive de dépistage dans une importante ville portuaire après la découverte de 6 cas de COVID-19. Et puis l'OMS a souligné lundi que laisser le COVID-19 circuler n'était pas une option. Des explications dans quelques instants. La suite de nos informations. Ici aux États-Unis, le Sénat a entamé lundi devant sa commission judiciaire l'audition de la juge Amy Coney Barrett, nommée par le président Donald Trump à la Cour suprême, par un dialogue de sourds entre républicains et démocrates. Le point avec Michel Joseph.
Je suis convaincu que les Américains de toute origine méritent une Cour suprême indépendante qui interprète notre Constitution et nos lois écrites, a dit Amy Coney Barrett face au sénateur avec son mari et ses 7 enfants derrière elle dans sa déclaration liminaire au premier des 4 jours de son audition. Même s'ils ne se font guère d'illusions sur leur chance de bloquer la nomination de la magistrate, faute de majorité à la Chambre haute du Congrès, les démocrates ont dénoncé la précipitation déployée par les républicains pour entériner le choix présidentiel qui devrait conforter la majorité conservatrice à la Cour suprême pour des décennies. Les démocrates se sont donc montrés offensifs à souhait. Je suis absolument persuadée que cette audition est destinée à imposer la nomination d'une juge de la Cour suprême qui supprimera l'assurance santé pour des millions de personnes en pleine pandémie meurtrière, a déclaré Kamala Harris, la colistière de Joe Biden, le candidat démocrate à la présidentielle du 3 novembre. En dénonçant ce qu'elle a appelé une procédure illégitime, le sénateur républicain Lindsey Graham, président de la commission, a ouvert l'audition en disant s'attendre à une longue semaine de contentieux tout en invitant les sénateurs à respecter les procédures. Il ne s'agit probablement pas de nous convaincre les uns les autres, à moins que quelque chose de réellement spectaculaire ne survienne. Tous les républicains voteront oui et tous les démocrates voteront non, a-t-il dit. Kamala Harris s'exprimait par vidéoconférence, la question du coronavirus s'étant invitée à l'audition car un membre républicain de la commission, Mike Lee, était présent dans la salle alors qu'il a été testé positif au COVID-19 il y a 9 jours. La sénatrice Kamala Harris a réclamé en vain le report de l'audition.
L'ONU a affirmé lundi que le dialogue politique interlibyen prévu en Tunisie début novembre pour tenter de sortir la Libye du chaos serait ouvert aux dirigeants ne visant pas de postes gouvernementaux, mais pensant d'abord à leur pays. Jacques Aristide.
Pour Stéphanie Williams, émissaire par intérim des Nations Unies en Libye, la communauté internationale souhaite voir des gens qui ne sont pas là pour leur propre carrière politique, mais pour leur pays. Elle a tenu ses propos après une rencontre avec le président tunisien Kais Saied. La Libye est actuellement déchirée entre deux autorités rivales, le GNA, le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli et reconnu par l'ONU, et un pouvoir incarné par Khalifa Haftar, homme fort de l'Est. Interrogé sur la présence du maréchal Haftar ou du premier ministre du GNA, Fayez al-Sarraj, l'émissaire a souligné que la condition pour participer à ce dialogue est de renoncer à être considéré pour occuper des postes gouvernementaux de premier rang. Cela inclut le conseil présidentiel, le premier ministère, les ministères et différents postes de souveraineté, a-t-elle précisé avant d'ajouter que l'objectif de la réunion est d'arriver à des élections nationales. Le dialogue de Tunis, qui débutera le 26 octobre par visioconférence avant de se poursuivre début novembre en face à face, réunira de nombreux membres du Parlement de Tobrouk et du Haut Conseil d'État, ainsi que des participants choisis par l'ONU.
L'OMS a jugé inenvisageable de laisser le COVID-19 circuler librement dans la société pour que la population en soit finalement immunisée, comme d'aucuns l'ont suggéré. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Jamais dans l'histoire de la santé publique, l'immunité collective n'a été utilisée comme stratégie pour répondre à une épidémie et encore moins à une pandémie, a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS. Il a insisté que laisser libre cours à un virus dangereux dont on ne comprend pas tout est contraire à l'éthique. La pandémie du nouveau coronavirus a fait plus d'1 million de morts dans le monde depuis son apparition fin décembre. Tedros Adhanom Ghebreyesus a expliqué que le monde n'en sait pas assez sur l'immunité dont jouissent les personnes ayant contracté le COVID-19, ajoutant que certaines ont nouvellement été infectées. La plupart des personnes infectées par le virus développent une réponse immunitaire au cours des premières semaines, mais nous ne savons pas si cette réponse est forte ou durable, ni si elle diffère d'une personne à l'autre, a-t-il expliqué. Il a souligné que le concept d'immunité collective est utilisé dans les campagnes de vaccination et a rappelé que pour la variole, il faut que 95% de la population soit vaccinée pour que les 5% restants soient protégés. Pour la polio, ce taux est de 80%.
La minute éco, Annick Talani.
Le Cameroun veut équilibrer sa balance commerciale extérieure et accroître la transformation locale du cacao à l'horizon 2030 pour créer plus d'emplois et de richesses dans la filière. Pour cela, Yaoundé vient de mettre sur pied un projet de relance de ce secteur lors du lancement de la campagne cacaoyère 2020-2021. Il coûtera 28 milliards de francs CFA au cours des 5 prochaines années. Le cacao génère 300 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires et emploie environ 2 500 000 personnes au Cameroun. En Libye, la Compagnie nationale de pétrole annonce la levée de l'état de force majeure permettant la reprise de la production du brut à Al-Sharara après plus de 9 mois d'arrêt. La NOC a aussi conclu un accord d'honneur avec les groupes armés qui occupaient le site pour qu'ils lèvent tous les obstacles et évitent tout acte menaçant la sécurité des personnels et des opérations. Al-Sharara produit en temps normal 315 000 barils par jour sur une production nationale de plus d'un million de barils par jour. Pour terminer, la dette des pays les plus pauvres du monde a atteint un record de 744 milliards de dollars en 2019, soit une augmentation de 9,5%, mais l'allègement de la dette traîne, a déclaré ce lundi la Banque mondiale. Il y a un besoin urgent pour les créanciers et les emprunteurs de collaborer afin d'éviter le risque croissant de crise de la dette souveraine déclenchée par la pandémie de COVID-19, estime l'institution.
À présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Le Burkina Faso enchaîne avec une deuxième victoire engrangée. Dans ses matchs amicaux disputés lors de ses journées FIFA, les étalons burkinabés ont disposé de Madagascar 2-1 à El Jadida au Maroc. Marco Ilaima Haritra a égalisé pour les Baria à la 44e minute et ainsi répondu à l'ouverture du score de Bertrand Traoré à la 33e, mais Eric Traoré a offert la victoire au Burkina Faso à la 66e. Auparavant, les étalons ont battu la RD Congo lors de leur première sortie, toujours à El Jadida 3-0. De son côté, le Ghana a dominé le Qatar 5-1. Le Togo a mené 1-0 face au Soudan avant d'être rattrapé à la 93e minute 1-1 à Tunis. Ce mardi, la Côte d'Ivoire comptera de nombreux absents pour son match amical contre le Japon. Wilfried Zaha, qui a réussi une belle prestation contre la Belgique, a été touché et libéré par le sélectionneur Patrice Baumel, tout comme 3 autres joueurs, Ghislain Conan, Nicolas Thier et Wilfried Canon, également blessés. Tous ont regagné leur club respectif. Le gardien Sayuba Mandé a été convoqué pour remplacer Thier lors de leur première sortie pour ses journées FIFA. Les éléphants ont fait match nul la semaine dernière 1-1 face à la Belgique. Franck Kessier, sur pénalty, a répondu au but de Michy Batshuayi. En Europe, Bounassar affirme n'avoir que de bons souvenirs de son passage à Marseille. Lors de sa présentation hier au Bayern Munich, en compagnie d'un autre Africain, le Camerounais Eric Maxime Choupo-Moting, arrivé du PSG. « J'ai tout connu à Marseille, le rire, les larmes, mais je n'ai que de bons souvenirs. » Ça m'a forgé, a déclaré Bounassa, 28 ans, qui a signé jusqu'en 2024 avec les champions d'Europe, ayant la possibilité de jouer pour la Guinée ou le Sénégal, ou encore la France, et interrogé sur ses ambitions de jouer un jour pour les Bleus. Ça s'est montré franc et réaliste. Bien sûr, j'y pense. Le Bayern est un club très exposé. C'est plus valorisant pour moi, mais c'est à moi d'être bon avant de penser à la sélection. Je ne me mets aucune pression pour ça. Je suis entièrement concentré sur ce que je dois faire ici, a-t-il dit. Pour sa part, le Camerounais Choupo-Moting sait qu'il devrait le plus souvent jouer la doublure de Robert Lewandowski et semble acquis à cette idée. Lewandowski est à mes yeux le meilleur attaquant du monde. a-t-il dit, ajoutant « Mais j'ai suffisamment confiance en moi ». Tous deux pourraient faire leur début dès ce jeudi en Coupe d'Allemagne pour le premier tour contre l'équipe de 5e division de Dürren à Munich.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sinoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Après 4 longues années de captivité dans le Sahel, l'humanitaire franco-suisse Sophie Petronin a été libérée jeudi dernier avec le chef de file de l'opposition malienne Soumaïla Cissé et 2 ressortissants italiens. À Gao, où elle mène ses activités de nutrition des enfants orphelins et démunis depuis plusieurs années, les populations se réjouissent de sa libération et souhaite son retour dans la cité. De Gao, notre correspondant, Boubacar Touré.
À sa descente d'avion le jeudi dernier, l'humanitaire Sophie Petronin a eu droit à cette reconnaissance des enfants de son centre depuis Gao.
Sophie
Oura Mahaman est monitrice dans ce centre. Elle exprime, elle aussi, toute sa joie.
Alhamdoulilah, Rabbil Alamin.
Nous remercions le bon Dieu qu'elle soit libérée. Cela nous avait fait beaucoup plaisir, car elle nous avait beaucoup manqué. C'est toute la population de Gao qui est contente. Quand j'ai vu Sophie à la télé descendre de l'avion, j'ai versé des larmes. Elle est une maman, une grand-mère, au cœur tendre.
Le même sentiment anime Nuhu Saloum, responsable du centre des enfants à besoins spécifiques de Gao Kundi, qui œuvre également dans l'humanitaire.
Un sentiment de bonheur, de joie, quand on voit une humanitaire chevronnée du genre, Sophie, personne qui s'est dévouée aux enfants orphelins, aux enfants démunis. Et c'est magnifique de l'avoir libre aujourd'hui. On a toujours prié pour qu'elle soit libre.
Sophie Petronin est une humanitaire très attachée aux enfants à situation difficile, comme le témoigne Yacouba Dama, secrétaire général de la commune urbaine de Gao.
Elle intervient dans le domaine humanitaire, la nutrition des enfants. Ce centre a été ouvert en collaboration avec la mairie. Elle est beaucoup engagée pour l'appui financier et technique de ce centre.
Après 4 longues années de captivité, l'humanitaire Sophie Petronin a recouvré sa liberté. Cependant, les agents du centre sont inquiets quant à son éventuel retour à Gao. Oura Mahaman, monitrice au centre.
Vu ce qui s'est passé avec Sophie, nous sommes inquiets. Est-ce que ses parents vont accepter qu'elle revienne à Gao? Mais nous leur demandons de laisser Sophie revenir, ne serait-ce que pour nous dire bonjour, surtout qu'on l'a amenée en France sans passer par Gao.
Voilà la réponse à cette inquiétude de Nuhu Saloum du centre des enfants à besoins spécifiques Kundi de Gao.
Quand on est habitué aux enfants, on ne peut pas les laisser, on ne peut pas se débarrasser d'eux. Aujourd'hui, elle se sent un citoyen de Gao, un citoyen malien, mais un citoyen de Gao tout court, un humanitaire tout court.
Il faut rappeler que Sophie a été enlevée à Gao dans le quartier de Sosokoira en décembre 2016.
Sophie, merci, merci, merci.
Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Gao, au Mali, sur 92.9 FM.
Au Congo-Brazzaville, la commission de prise en charge des patients du Covid-19 annonce des développements intéressants. Par exemple, dans plusieurs centres, il n'y a plus de cas de Covid. Selon les experts, les patients atteints de ce virus sont de plus en plus asymptomatiques et donc ne sont plus reconnus par le protocole sanitaire mis en place dans le pays. Explication de notre correspondant à Brazzaville, Arsène Séverin.
L'annonce a été faite par le président de la commission de prise en charge des patients Covid. Sans être triomphant, le professeur Alexis Elira Dokekias indique que les centres de traitement se vident presque tous les jours.
c'est que si actuellement on arrive sur plus de 200 cas à dépister 2 positifs, alors que quand on avait 200 cas il y a quelques temps, il y avait plus de 80 positifs, donc la situation s'est améliorée. Mais ça ne veut pas dire que le virus est parti. Nous n'entrons pas dans le triomphalisme. Le site de Léona a 0 patient. Le site du CHU a 0 patient. Le site de Filou a 2 patients. Le site de la Concorde qui a une capacité de 200 lits a 12 patients. Niari, 0 patient. On est à 49. Au nord du pays, il persiste des îlots. Donc, tant vont nous critiquer, cette guérison peut être spontanée. Je suis d'accord.
Alors que le pays compte encore plus de 1000 cas actifs, qu'est-ce qui peut justifier une telle baisse? Docteur Achille Lanzi, épidémiologiste, avance une explication.
Ces 6 dernières semaines, les patients qui sont infectés sont de plus en plus asymptomatiques, c'est-à-dire ne présentent pas de signes, ou post-symptomatiques, donc présentent très peu de signes. Hein, ce taux est de l'ordre de plus de 80% des cas. Étant donné que les patients sont de moins en moins symptomatiques, donc ça devient difficile pour eux d'être détectés par les mailles du dispositif qui est mis en place. Il y a un changement de stratégie au niveau du ministère qui consiste à faire en sorte que tous les patients dépistés positifs ne devraient plus obligatoirement être hospitalisé.
Observateur depuis le déclenchement de la crise sanitaire, l'ambassadeur des États-Unis, Todd Haskell, conclut que le Congo doit avoir passé le pire.
C'est moins grave maintenant que je pensais il y a 6 mois, ici au Congo, je parle. Mais je dois dire qu'en général, la situation ici est restée sous contrôle. Je crois que nous avons traversé le pire.
Il faut aussi noter que des hôtels réquisitionnés pour les mises en quarantaine ont été désinfectés et s'apprêtent à reprendre leurs activités commerciales. Selon son dernier point du 9 octobre, l'OMS parle quand même d'une trentaine de nouveaux cas, dont un décès. Mais le gouvernement ne communique aucun chiffre depuis plus de 2 semaines. Et les strictes mesures de protection restent en vigueur dans le pays. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Bénin, après des vacances intervenues dans des conditions particulières en raison de la pandémie de coronavirus, les écoles ont rouvert leurs portes depuis le 28 septembre. Mais dans certaines localités du pays, cette rentrée des classes a été repoussée à cause des inondations. Ginette Fleur à Dandé.
Conformément au calendrier officiel de l'année scolaire et académique 2020-2021, la rentrée scolaire est effective au Bénin. Mais dans le département du Borgou, les élèves et étudiants doivent encore prendre leur mal en patience. Les pluies de cette année intervenues plus tôt que prévu ont inondé certaines écoles, obligeant les responsables à fermer les portes. Quelques élèves donnent ici leurs impressions.
Il y a beaucoup d'eau dans l'établissement, c'est ce qui m'a un peu choqué.
D'habitude, c'est plus inondé que ça. Mais cette fois, on fait avec.
Alassane Kouagou est le directeur d'une école privée. Malgré les inondations, il a décidé de démarrer les cours, prétestant de la nécessité de finir à temps les cours.
Entre deux bâtiments, il y a de l'eau encore là, n'est-ce pas? Et les élèves ne peuvent pas traverser cette eau. Mais la rentrée a lieu quand même. Ce n'est pas aussi criant pour empêcher la rentrée de se dérouler.
Mais les enseignants ne sont pas de cet avis. Arlette Nounagnon est enseignante. Elle se plaint de l'insalubrité de l'eau qui expose les enfants et même les enseignants à toutes sortes de maladies.
C'est pénible. C'est ma première année ici. On vient de me nommer. Ça m'a surpris de voir les enfants de 5 ans patauger dans de l'eau comme ça. Nous autres, nos activités là, l'enfant a besoin d'espace. Je veux garder les tout petits, hein, de 3 ans. Jusqu'à 4 ans, 5 ans. Ils vont patauger dans l'eau comment? Nous allons faire le sport comment?
Le directeur départemental des enseignements maternels et primaires de l'Aliborie, Biotogo Gounouzimé, a déclaré sur la radio nationale que la rentrée des classes dans certaines localités du département sera repoussée de quelques semaines. Les parents d'élèves appellent les autorités locales à aider ces écoles pour que la rentrée soit effective.
Depuis le 28 septembre, la rentrée a débuté, mais ces écoles sont encore fermés. Si vous pouvez penser à ces enseignants en mettant à leur disposition une bac autorisé, ça serait vraiment une joie pour les élèves de ces écoles. Quand j'ai feuilleté les enfants qui seront exprimés, j'ai trouvé très peu de noms de ces élèves de cette vallée.
Quelques écoles de Cotonou sont également restées fermées à cause des inondations. Les responsables de ces écoles expliquent que si l'État ne prend pas une décision responsable, l'année risque d'être perturbée pour les enfants, surtout ceux qui ont des examens. Antoine Bacho est un directeur d'école.
Nous demandons à la mairie de Cotonou de nous aider. Nous envoyons des voiles de sable, d'accord, pour le remblai de l'école.
En dehors des inondations, il faut compter avec la pandémie du coronavirus qui impose le respect des mesures préventives dans les écoles. Mais avec des effectifs pléthoriques, la distanciation est difficile. De Cotonou, je n'ai plus à donner pour VOA Afrique.
Au Cameroun, la crise anglophone et l'insécurité dans la région de l'extrême nord où la secte Boko Haram mène des exactions ont un impact sur le devenir de nombreuses jeunes filles. C'est ce que révèlent des associations locales qui se penchent également sur des phénomènes de viol, de sous-scolarisation, de grossesse précoce et diverses formes de violence touchant les jeunes filles. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jules Tap.
Dans la région du nord-ouest et du sud-ouest en zone anglophone, les jeunes filles sont devenues des victimes collatérales du conflit entre l'armée et les séparatistes.
Étant même à la maison, tu n'es pas en sécurité. Il y a ces gars-là qui l'attaquent.
Mboudina Bell, coordonnatrice SOS Viol du réseau national des Tantines. Une association qui encadre et soutient les adolescents contre toute forme de violence.
Il y a quand à l'aise, il y a aussi les gars qui te calculent, qui profitent de tout ça pour te faire du mal. Il y a quand on envoie ces filles qui vont quitter, aller ailleurs pour continuer le futur. Mais là, ils sont aussi plus exposés parce qu'il y a les filles qui sont quittées du nord-ouest, ils sont partout, ils sont les bonnes, ils marchent partout. Ils sont devenus même les prostituées à jeune âge pour s'en sortir.
À cause de la guerre que le Cameroun mène contre Boko Haram dans l'extrême nord, la situation de la jeune fille dans cette région est non plus reluisante. Aïgo Manga est coordonnatrice des programmes de l'association de lutte contre les violences faites aux femmes.
Dans le cadre de la lutte contre Boko Haram à l'extrême nord, ces jeunes filles sont davantage le plus enrôlées dans ces zones. Les jeunes filles sont exposées aux violences. À l'extrême nord, par exemple, dans les camps de réfugiés et des personnes déplacées, même si elles sont dans ces camps pour réfugiés, refuges et prises en charge, elles sont aussi davantage exposées aux viols, aux mariages précoces, non accès à tout ce qui est formation, éducation sexuelle.
Ces deux conflits ont, en plus, provoqué des conséquences sur l'éducation de nombreuses jeunes filles, comme l'explique Aigo Manga, de l'association de lutte contre les violences faites aux femmes.
La scolarisation des jeunes filles est interrompue, et dans les villes là où ces familles s'installent également, il n'y a pas justement assez de structures spécialisées pour leur prise en charge et leur réinstallation, d'où les jeunes filles sont davantage exposées à tout ce qui est échec à la scolarisation, échec à l'éducation, et elles sont ainsi exposées à une sexualité précoce qui fait en sorte qu'elles ont des grossesses non désirées qui ont de l'impact d'abord avant tout sur la santé, sur leur psychologie, mais également sur leur éducation.
Face aux phénomènes comme le viol, l'inceste, le massage des seins des jeunes filles à la pierre, de nombreuses campagnes ont brisé le silence des victimes. En plus de la loi en vigueur depuis juillet 2016 qui condamne par exemple les parents violeurs à 20 ans d'emprisonnement. Jean-Pierre Edzoa, directeur de la protection sociale de l'enfance au ministère des Affaires sociales.
Avec l'appui de l'UNICEF, nous avons élaboré il y a un an, deux ans, un manuel de procédure opérationnelle standard pour la prévention, le signalement, la prise en charge et la réinsertion des enfants victimes de violences.
Selon de récentes statistiques publiées par l'association Réseau National des Tantines RENATA, 24% des jeunes filles camerounaises sont tombées enceintes à la suite du viol, 18% ont contracté une infection sexuellement transmissible, voire le VIH à l'occasion, et seulement 5% des violeurs, soit un violeur sur 20, ont été condamnés par la justice. Yaoundé, Emmanuel Jumta, VOA Afrique.
À partir du 19 octobre, VOA Afrique vous invite à suivre toute l'actualité sur les élections américaines 2020 et la course à la Maison Blanche. Des reportages, des analyses, des témoignages et des éditions spéciales qui vous font vivre tous les jours et en temps réel le déroulement de la présidentielle américaine du 3 novembre. Vous pouvez aussi participer à la conversation et réagir depuis votre pays. Le président Donald Trump sera-t-il réélu ? Le démocrate Joe Biden pourra-t-il gagner face à son rival républicain ? Rendez-vous sur votre fréquence de VOA Afrique et sur nos stations partenaires. Retrouvez également les sujets traités sur votre site voaafrique.com et sur Facebook.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Edrissa Sibulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.